Dites 37-2.
37-2.
Vous avez 37-2 messages archivés.
Je ressens... Je ressens... C'est méditatif. C'est... Ça me calme. Ça... Parce que le bruit... c'est... Les bruits, c'est que c'est comme des murs, en fait. Mais là, le silence, tout d'un coup, c'est comme regarder la mer. On regarde loin et c'est planant, c'est le moment où je peux écouter loin, quoi.
Aujourd'hui, dans 37.2,
on se plonge dans la parole pour mieux entendre le silence.
On a rendez-vous Skype avec Daniel, chasseur de silence en Alaska.
Moi, j'ai pas d'image là.
Face à notre écran noir, on interroge ce contemplatif du bout du monde.
Très bien.
Promis, vous n'entendrez pas de silence radio.
Oula, oui.
Comment ? Ouais, non, on t'entend.
Là, on a rien compris, ouais. Ce qui ne vous empêchera pas d'entendre une belle histoire de silence et de radio.
Où se raconte l'intime dans les interstices du langage.
Ouais, c'est ça, j'augmente le volume. C'est bon, là ? C'est à cause de l'Atlantique, ça, je pense.
Mon nom est Daniel Capey, je viens de France, de la région de Rhône-Alpes, dans la Drôme. Le son m'intéresse depuis que je suis vraiment jeune. Mon père est ingénieur du son dans la musique et compositeur également. Moi j'ai passé beaucoup de temps dans son studio quand j'étais enfant et j'étais très intrigué par son travail. Puis il m'a vraiment donné le goût de faire des prises de son. Mon père, il est compositeur de musique instrumentale, mais il fait également il a aussi beaucoup fait des compositions électroacoustiques et j'étais vraiment fasciné par ce qu'il faisait, je trouvais ça vraiment beau. Mon meilleur ami dans mon village, lui, était très intéressé par le cinéma. Et donc, on a commencé ensemble à faire des films. Donc, lui, il réalisait, puis moi, je faisais le son. Et de fil en aiguille, après, j'ai continué à mes études dans le secteur du cinéma. Mais toujours dans le domaine du son. Peut-être quand j'étais très, très jeune, mais vraiment en école primaire, hein, j'avais commencé la pratique du violon. Et là, j'avais pensé d'abord peut-être être luthier. Mais ensuite, dès le... Bah, au collège, peut-être que je pensais moins à ça. Mais dès le lycée, j'ai tout de suite eu envie de me diriger vers le cinéma. Mais ça, c'est parce que mon meilleur ami était très intéressé par le cinéma. Et puis, je l'ai un peu suivi, quoi. J'avais envie de faire des choses avec lui. Chez moi, on n'allait jamais au cinéma, on n'avait pas de télé, on regardait jamais de films, en fait. Donc j'ai découvert le cinéma en arrivant à Paris, en fait. C'est pas un domaine qui était à ma portée naturellement, quand j'étais enfant, quoi. Mes parents étaient dans la musique et le théâtre, donc peut-être que j'aurais été plus dans le théâtre. Si j'avais pas eu cet ami qui m'a embarqué avec lui dans sa passion, en fait, mais qui est devenu aussi la mienne, hein, par la suite, mais c'est vrai que peut-être que je me serais embarqué dans autre chose. Je devais avoir 22 ans. J'étais dans mes études de cinéma à Lyon, dans un BTS audiovisuel, toujours dans la section son. Donc dans mon village, il y avait un atelier de typographie. Et je suis allé voir le bonhomme et je lui ai demandé s'il pouvait enregistrer ses machines. J'ai enregistré ses machines. Il y en avait plein, des vieilles machines du 19e siècle. avec des bruits très mécaniques et très percussifs. J'en ai fait une première composition. Puis après je me suis intéressé à d'autres matières, le sable, le verre. J'ai fait une composition à partir de ces deux matières-là, le sable et le verre, avec comme trame narrative que le sable se transforme en verre, tout simplement. Au début, c'est plutôt ça, ouais, c'est faire de la musique avec le réel. C'était vraiment mon premier travail de création, voilà. Et ensuite, j'ai fait l'école La Fémis à Paris pendant 4 ans. J'ai travaillé 2 ans à Paris, et ensuite, je suis venu à Montréal travailler pour fuir Paris. Mais j'ai beaucoup aimé Paris par tout ce qu'elle m'a apporté culturellement. Mais j'ai eu du mal à vivre dans cette ville. Et donc, le problème, c'est que travailler dans le cinéma en dehors de Paris, en France, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Il faut vraiment commencer à Paris longuement pour installer sa carrière et ensuite peut-être pouvoir s'installer plus à la campagne. Mais moi, j'avais pas envie de rester plus longtemps à Paris. Donc, j'ai cherché un autre endroit où je pouvais pratiquer le cinéma, dans une autre ville assez dynamique dans ce domaine-là. Puis, j'ai vu que Montréal était une bonne ville. Donc, je suis venu une première année, pendant laquelle j'ai très peu travaillé en cinéma, parce que c'est normal, je connaissais personne. Mais la deuxième année, j'ai fait des super rencontres et j'ai commencé à travailler sur des gros projets qui m'ont vraiment plu. Et donc, je suis resté. Là, je suis en train de m'installer plus longuement. À Paris, je pense que je ne m'y retrouvais pas socialement. C'était une ville qui m'oppressait un peu. Enfin, même beaucoup. Il y a le bruit, ouais. Le bruit c'est quelque chose qui m'oppressait beaucoup à Paris. Le bruit, la densité de... Moi, je viens de la campagne, donc je suis plus sensible au silence et à des espaces ouverts. Et Paris était vraiment le contraire. Montréal, je trouve que c'est une ville... c'est un compromis entre la ville et la campagne. C'est une ville très... espacé, large, avec beaucoup de verdure. On voit le ciel parce que les immeubles sont pas hauts. C'est facile de se retrouver dans la campagne. En une heure de vélo, on est vraiment perdu dans la campagne. Et c'est vrai que Montréal en hiver est une ville assez silencieuse avec toute la neige. Ça absorbe l'acoustique et ça absorbe... C'est comme des pièges à son, la neige. Donc ça sèche vraiment... le bruit environnant, et ça rend une ville un peu plus silencieuse, un peu plus mystérieuse aussi, peut-être. Ouais, c'est une ville calme, et ma chambre est très silencieuse, et le soir ou le matin, très tôt, quand je me réveille, je suis vraiment dans le silence complet, et j'adore ça. Ça me donne de la force. Le silence, ça fait longtemps que ça m'intéresse. D'abord parce que dans le montage son, on commence par monter des silences avant de monter des bruits pour installer une acoustique et un fond d'air pour les films. Et ensuite, sur ces fonds d'air, on peut monter des bruitages, etc., des ambiances, des effets. Donc déjà, cet aspect-là du travail m'intriguait, le fait de chercher des silences et d'ouvrir en fait l'acoustique des différents lieux. Et ensuite, c'est aussi ma nature contemplative, j'adore juste me poser dans un paysage hyper silencieux et écouter le silence. C'est quelque chose que je trouve très planant. Avec un ami, on a visité... J'ai un ami, en fait, qui fait de l'exploration urbaine, c'est-à-dire qu'il va visiter des lieux abandonnés et il se promène à l'intérieur. Il prend des photos, voilà. Mais c'est des bâtiments qui sont totalement... on ne peut pas rentrer de manière légale, ils sont vraiment fermés. Donc, il faut toujours trouver des moyens de pénétrer à l'intérieur. Et avec cet ami-là, lui, il m'a amené un jour dans un de ces bâtiments. Et j'ai adoré aussi juste écouter le silence. Ben, c'était la nuit, hein, donc la ville était déjà très silencieuse à la base. Mais il y a quand même un peu de circulation au loin. Et d'entendre l'activité de la ville à l'intérieur de ce bâtiment de béton hyper épais. Donc la ville filtrée à travers ces cloisons épaisses, il y avait quelque chose de vraiment magique. En fait, je me suis rendu compte que le silence est quelque chose de très vaste. Comme le geste, par exemple. Le geste, c'est quelque chose de très vaste, mais le silence, pareil, on peut l'expliquer de manière... C'est presque quelque chose d'abstrait, le silence, en fait. Et qui peut s'expliquer de manière presque infinie. Mais... les bruits aussi existent avec ces silences. Si les bruits étaient tous collés les uns après les autres, ils ne seraient pas du tout définis. Mais bon, voilà, le silence est défini parce qu'il y a ces bruits qui offrent des cloisons et qui permettent de nettoyer l'oreille et pouvoir apprécier le silence. Parce que le silence, au bout d'un moment, s'il n'y avait que du silence, on le nommerait plus silence, ça serait autre chose. Il n'y a pas deux silences pareils. Dans la Drôme, il n'y a pas de silence. En France, il n'y a pas de silence. Il n'y a plus de silence. D'ailleurs, oui, c'est ça, une des premières expériences du silence, c'est quand j'avais travaillé avec un ami. Je l'avais aidé sur la conception sonore d'un film d'animation. Et on devait aller enregistrer des silences. Donc au début, on est juste sorti de la ville pas loin, quoi. Bon, on n'entendait pas de silence. Puis au fur et à mesure, on allait de plus en plus loin. À la fin, on est carrément monté dans les Alpes et tout. On a fait 5 heures de bagnole. Après, on a fait encore 2 heures de marche avec la tente et tout. On est allé... dormir haut dans la montagne, tout ça, et on n'entendait jamais de silence. Il y avait toujours un avion qui passait, ou une route en bas dans la vallée, ou... Il n'y a plus de silence. Et c'est vrai que ça, c'était une des premières constatations qui m'a marqué, puis qui... Peut-être ça vient de là, ma première fascination du silence. C'est... mince, il n'y a plus de silence, mais je voudrais entendre le silence, malgré tout. Et en Alaska, je l'ai vraiment entendu, le silence. Je suis allé faire un voyage en Alaska avec une amie et j'ai trouvé comme but d'aller enregistrer des silences. Et là, j'ai ramené toute une collection de silences naturels, de paysages enneigés, totalement silencieux, quoi. Et je pense que c'est une des dernières régions dans le monde où il y a des vrais silences. C'est méditatif. Ça me calme. Ça... Et en même temps, oui, voilà, c'est un moment où je réfléchis plus, en fait. C'est un moment où juste je me laisse bercer, où je... c'est comme si je... ouais, ça, je me laisse bercer.
venez d'écouter Daniel dans 37 2. Un portrait réalisé par Pascal et Clara.
Réécoutez-nous sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci.
Bye.